Bienvenue dans le podcast Lumière sur le spectre, l'autisme révélé. Je suis Ala, psychologue.
Et je suis Mona, psychiatre.
Et on travaille toutes les deux au C3RP, une unité du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences.
On reçoit beaucoup de questions sur l'autisme sans déficience. Alors plutôt que d'y répondre nous-mêmes, on a décidé de donner la parole aux personnes concernées directement. Et c'est dans ce cadre-là qu'on te reçoit, Daniel. Bienvenue.
Bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité, de me recevoir.
Avec notre plaisir.
C'est clair. Et Daniel, tu es là pour parler d'un trouble qui est souvent associé au trouble du spectre de l'autisme, qui est le trouble déficitaire de l'attention, avec ou sans hyperactivité, impulsivité. Dans ton cas, tu vas nous raconter un petit peu ton vécu de ce TDAH au sein de ton trouble du spectre de l'autisme.
Donc justement, comme vous avez dit, je suis Daniel, je suis un adulte qui aujourd'hui a un diagnostic TSA et TDAH, donc je suis autiste et TDAH, et avec quelques 10 parmi autres charmes. Donc les premières choses que j'ai remarquées, en fait, quand je me suis rendu compte et que j'étais différent, que j'étais atypé par rapport à mes frères, c'est justement ça. C'est que j'ai 2 frères, moi je suis au milieu, donc même si personne ne me disait, je voyais parfaitement que ma vie scolaire, ma vie sociale, ça s'est passé pas exactement comme pour mes frères.
Qu'est-ce qui était différent?
Donc moi j'avais du mal à suivre mes devoirs, j'avais du mal à réviser à la maison, j'avais de mal à sortir, j'avais du mal à organiser l'uniforme, les cahiers, toute la routine scolaire, donc c'était ça. Première chose. Deuxième chose, et je me souviens qu'à l'école, pendant les pauses, quand on a des pauses, je voyais mes frères qui avaient toujours ce groupe des amis. Et moi, j'avais plutôt une tendance d'être isolé. Donc, au départ, en fait, je croyais que j'avais un problème. À force d'écouter, comme il dit, c'était un problème pour socialiser. Peut-être un enfant a un problème, un enfant qui est déprimé, j'ai acheté ce discours. Sauf que maintenant que je suis conscient de moi, de ma condition, et que je reviens en arrière et je vois cet homme-là, j'étais parfaitement bien, en fait. Moi, j'étais tout seul, mais non, en fait, moi, comme je sais que j'ai procédé les émotions et les sensations d'une façon différente, moi, c'était plus gratifiant de rester tout seul et profiter de l'herbe. Je voyais les petits insectes. Je profitais d'être tout seul, pas être dérangé. Donc maintenant, je sais qu'il n'y avait pas de mauvais à l'époque, sauf que moi, j'y croyais. Mais je voyais ça, en fait. La différence, c'était ça. Je voyais mes frères qui étaient très populaires et qui avaient des amis et tout ça. Et moi, je voulais plutôt rester des côtés, tout seul.
Du coup, pour toi, c'était pas vraiment un problème, hein?
Non, mais j'y croyais pendant longtemps que c'était un problème.
Pourquoi tu croyais que c'était un problème, du coup?
Parce que justement, les professeurs m'ont dirigé vers les psychologues de l'école. Et justement, les professeurs, en fait, ils ont rapporté cet comportement aux psychologues de l'école. Et à l'époque, il n'y avait pas toute l'information qu'il y a aujourd'hui. Donc justement, une fois qu'on était, on rentrait pas dans la norme typique des écoles, on considérait qu'il y avait un problème. On voyait pas ça comme une atypie, on voyait vraiment que c'était un problème. Ils ne socialisent pas, ils ne rendent pas les devoirs, ils se dispersent très facilement pendant les cours. J'avais des comportements très, très inappropriés, c'est-à-dire par exemple, des fois, soudainement, je voulais aller aux toilettes, ou des fois, j'étais pas vraiment... mes commentaires ou mes participations n'étaient pas vraiment calés à ce qui s'est passé. Donc c'est là que ça partit dans une voie qui est, il y a un problème. C'est un problème. Il y a des déficits et j'y croyais pendant longtemps. Mon premier diagnostic, c'était à l'âge de 8 ans, comme TDAH. Et entre l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 38 ans, comme justement il n'y avait pas assez d'informations, je fais avec. Je fais avec. Mais en fait, je me suis rendu compte que j'ai vécu presque 40 ans sous stress, sous l'angoisse. Et j'avais pris ça comme c'était normal. Les choses sont comme ça, la vie est comme ça.
D'accord, pour toi c'était en lien avec ton TDAH ou c'était juste...
Je n'avais pas un diagnostic 100% fini. Et donc à l'époque, une fois qu'il n'y avait pas cette information au niveau du TDAH, Et c'était très confus parce qu'on passait d'un professionnel à un autre et on était dans le secteur privé. Donc, mais pour mes parents, c'était un peu compliqué justement de payer des professionnels dans les secteurs privés et de ne pas savoir des réponses claires, de ne pas savoir des solutions, des stratégies. Donc, à bout d'un moment, on dit, bah, c'est ce qu'on a et on fait avec. Donc, on arrête parce que même pour moi, quand je devais aller au psychologue, pour moi, ça a devenu très angoissant. Moi, c'est moi qui, à bout d'un moment, je voulais plus y aller. Parce que ça m'angoissait tellement, parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de pression parce que je ne changeais pas, parce que je continuais à être pareil. Donc, à ce moment-là, mes parents se sont dit, bah, on arrête les psys, on fait avec. Donc, mon premier diagnostic, c'était à l'âge de 8 ans. Et c'est là qu'on est parti, par conseil de l'école, des psychologues de l'école, à chercher des aides plus spécialisées. On a arrêté parce que justement, on passait d'un professionnel à un autre, et à l'époque, il manquait beaucoup d'informations au niveau de ces troubles. À bout d'un moment, c'était pas seulement très angoissant, mais aussi j'avais l'impression d'être tout le temps sous pression. Donc j'avais la pression de l'école, j'avais la pression sociale, et maintenant, ça rajoutait la pression du psychologue. Et moi, au lieu de l'aide, je le voyais comme une confrontation. C'était comme si on me disait, et alors, est-ce que ça améliorait? Est-ce que tu as arrêté de faire ça? Est-ce que maintenant tu vas mieux? Ça n'a pas été, ça m'aidait pas. Donc, au bout d'un moment, mes parents se sont dit, on arrête de dépenser parce que c'était trop cher. Et au lieu d'aider, ça revenait en arrière.
Au final, ce que tu es en train de dire, c'est que tu avais une sorte d'écoute, de coaching, mais pas vraiment de stratégie qui t'était apportée pour gérer ça. Tu n'as pas eu de traitement, tu n'as pas eu de stratégie enfin, comportementale.
Et non, et aucune, et je pas de souviens. En fait, à chaque fois que je me présentais, c'était plein de questions. Je voyais plutôt comme c'était la confrontation. Donc, il m'a demandé, t'as fait quoi? Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu l'as fait? Ça t'a fait quoi? Et tu penses pas que tu devrais arrêter? Tu penses... Donc, au lieu de me donner des techniques, des stratégies, je les voyais comme une limite agression, comme une confrontation. Et donc, après les stratégies, c'est moi-même et ma mère dans ma famille qu'on a trouvé des côtés. C'était par exemple des choses. Je sais que j'ai une vie d'attention très courte, donc il fallait les faire très amusant. Donc, par exemple, je commençais à apprendre avec des chansons. Donc, je disais, tiens, c'est pas grave, au lieu de le mémoriser comme ça, je vais essayer de faire un petit morceau de chanson. Ou je vais faire un petit. Avec des stickers, avec des dessins.
Ouais, donc des
Mais
moyens mnémotechniques
ouais, ouais, ouais.
que tu
Mais ça, sont des
trouvais.
choses qu'on a développées, nous, avec nos moyens,
D'accord.
petit à petit, et qui, à bout d'un moment, les stickers, ils ont fait une grosse différence. Ça a beaucoup aidé. Ça a beaucoup aidé. Mais ça aussi, ça m'a mis des problèmes à l'école, avec les mêmes écoles. Parce que, par exemple, quand j'ai une histoire, une anecdote, j'ai rendu un cahier, il y avait plein de stickers. Et en fait, je me suis fait. On m'a pénalisé. Donc, on m'a suspendu parce qu'en fait, il a dit qu'elles ont considéré que je ne prenais pas au sérieux mes cours. Et il m'a dit, pourquoi vous avez mis des stickers là, là, là? Et après, en fait, je lui disais, c'est pas moi, c'est ma mère. Et là, il s'était plus énervé encore parce qu'il disait, vous nous montez, vous foutez des noms. Et puis, on m'a suspendu, on m'a pas cru que c'était. Et c'était vraiment ma mère qui m'avait mis les stickers pour m'aider à réviser. Et puis finalement, j'étais suspendu, je sais pas, 2 ou 3 jours. Donc, c'était compliqué quand même la vie scolaire.
Et du coup, tu avais tous ces symptômes-là qui étaient des symptômes de troubles déficitaires de l'attention, d'hyperactivité, donc ce qu'on appelle le TDAH. Tu avais aussi des symptômes d'autisme, ce que tu décrivais tout à l'heure. Quel a été l'impact finalement de ce TDAH sur ton parcours diagnostique vers l'autisme?
Je pense que là où je vois, parce qu'avant je voyais pas la différence entre le TSA et le TDAH. Et même aujourd'hui, des fois, je demande à savoir comment est-ce que j'ai quelques caractéristiques ou symptômes qui appartiennent auxquels. Mais non, avec la conscience que j'ai. Et regardant en arrière, mon TSA, en fait, ça s'exprimait plutôt au niveau des communications et au niveau social. C'est là où je vois que ce n'était pas les TDAH, c'était plutôt le TSA. Ça veut dire que, pas parce que je parle, ça veut dire que j'arrive à faire passer un message. Donc, c'est très frustrant de vouloir dire les choses, que c'est très compliqué de dire les choses, qu'on a, on a l'impression qu'on parle beaucoup, on n'arrive pas à faire court, j'arrive pas à faire court, et à la fin, de toute façon, mon message n'était pas passé. Et si des fois, j'arrivais à faire passer mon message, je n'étais pas pris au sérieux. Donc là, je vois que c'est plutôt, si je ne me trompe pas, je le vois plutôt associé au TSA, les problèmes de communication. Au niveau social, comme je dis, c'est très compliqué pour moi de m'adapter dans tous les groupes sociaux. Et justement, c'est là que ça devient très perturbant parce que moi, sans le savoir, en fait, j'ai cherché, je voulais être comme les autres. Donc, j'ai commencé à utiliser les systèmes de masques, les masques sociaux. J'essayais de m'adapter selon les groupes pour plaire, pour être accepté, pour avoir une validation. Et de toute façon, ça marchait tout au début et à la fin, de toute façon, je me faisais virer. C'était pire. Je ne sais pas si c'était pire, le fort de tout monter une masque, une situation pour me faire accepter. Ok, de toute façon, même après tout l'effort, on dit « Ah, c'est bon, okay. On te vire. » Donc, au niveau social, c'est très compliqué, jusqu'à aujourd'hui. Hein. C'était depuis l'enfance. Il y a une période que j'ai beaucoup essayé de rentrer dans les normes. Et maintenant, je me suis dit « Non, je suis bien comme ça. » Donc, j'arrête.
Et la période où tu as essayé de rentrer dans les normes, comment tu te sentais? Comment ça se passait?
C'était... Comme je disais, ça marchait tout au début, donc c'était la gratification immédiate. Et ça commence par faire faire les cons, par exemple, par dire des bêtises. Donc, disons, la classe, elle est toute en silence, donc tout est sérieux. Et si tout d'un coup, je faisais un « Ah !» ou je faisais un bruit, un mouvement, mes collègues, ils allaient rire. Et le fait qu'ils rient, ils disent « Ah, t'es drôle, Daniel, c'est sympa !» Donc, moi, je voyais ça comme une gratification immédiate. Sauf que, après, en fait, il y a beaucoup de choses que je faisais, justement. On me proposait de faire des petits défis. Et moi, pour essayer de rentrer dans leurs normes, dans leur jeu, dans leur groupe, j'acceptais. Ah, ça, c'est autre chose aussi. Que j'arrive pas à mesurer les dangers ou les conséquences. Donc, des fois, les gens, ils vont, en sachant que moi, je suis prêt à tout faire pour plaire, même ils me mettaient des défis très compliqués. Des fois je le faisais, des fois je le faisais pas. Mais après, de toute façon, même si je faisais rien, je m'en souviens aussi les problèmes que j'avais avec mes collègues, c'était des fois ils faisaient des choses graves, des blagues assez fortes dont j'étais pas dedans, mais ils mettaient la faute sur moi. Par exemple, ils mettaient les feux, ils mettaient des fours à la poubelle. Et après, quand ils cherchaient les responsables, ils disaient, ils pensaient, c'est Daniel. Et moi, je disais rien. Je disais, dans ma tête, je disais, ok, s'ils prennent la culpabilité, s'ils prennent la responsabilité, je vais donner héros pour eux, ils vont pas être punis. Et donc, finalement, moi, je prenais plein de problèmes pour justement se déplaire. Et à la fin, de toute façon, je ne faisais pas partie de leur groupe d'amis.
Est-ce que ça serait une sorte de naïveté sociale, hein?
Oui. Je pense, oui, parce qu'on ne voit pas les intentions des autres.
Ouais.
Donc, on ne voit pas les vraies intentions. Et c'est parce qu'en fait, je sais que j'ai du mal des fois, à comprendre que quelqu'un puisse faire quelque chose que moi, je ne ferai pas. Donc, dans ma tête, je sais par exemple que je ne vais pas faire quelque chose de mauvais et après dénoncer quelqu'un d'autre. Donc, c'est là où ça devient un peu gênant. Parce que je ne vois pas, comme je dis, en fait, la plupart des temps, je ne me rends pas compte si on m'émonde, si on se moque, si on est en train de me chercher la bagarre. Mais de l'autre côté aussi, de côté bon, je ne me rends pas compte quand on me drague, je ne me rends pas compte si quelqu'un a des bonnes intentions. Je ne me rends pas compte. Les choses, il faut qu'elles soient très explicites, extrêmement claires pour que je puisse me rendre compte.
Ça, c'est plutôt un symptôme de l'autisme, du coup, ce qu'on appelle un défaut de théorie de l'esprit, donc les difficultés à se mettre à la place de l'autre, tant sur le plan de la pensée, donc cognitivement, que sur le plan des émotions, donc l'empathie, en fait. Hein.
Tout à fait.
Et c'est exactement ce que tu décris. Ça, c'est plutôt le trouble du spectre de l'autisme, du coup. Mais ça, c'était déjà présent quand tu étais petit, et pour autant, le diagnostic que tu avais eu initialement, c'était le trouble déficitaire de l'attention. Qu'est-ce qui a fait, finalement, que tu es arrivé vers un diagnostic d'autisme ?
Et justement, en fait, les symptômes ou les caractéristiques de TDAH ou TSA sont les mêmes quand on est enfant à quand on est adulte. Est-ce qu'ils changent ? C'est la façon comme on le gère. Et est-ce que ça change aussi ? C'est l'impact qu'il y a dans nos vies. Tout ce que je viens de vous expliquer, une fois que je suis devenu adulte, j'ai commencé à avoir par exemple des problèmes pour gérer mes finances. J'avais des problèmes pour justement choisir mon groupe, mon entourage. Donc, j'ai eu des problèmes au niveau santé parce que j'ai pris beaucoup de risques au niveau physique et psychique, sexuel, de tous les fronts.
Comment tu l'expliques ça, justement, le fait d'avoir pris autant de risques ?
Parce que, par exemple, si j'avais un partenaire et qui m'a demandé de d'avoir des rapports qui voulait forcément que ça soit d'une façon, qui me dit non mais t'inquiète, moi je suis bien, je ferai pas ça, je fais mon bilan de santé, il y a pas de problème. Donc par exemple, tous ces genres de choses, et j'y croyais. Mm-hmm. Donc par exemple, j'avais un partenaire qui me disait qu'il refusait d'utiliser les préservatifs, et puis il jouait sur le fait de la culpabilité. Donc il me disait, ah, mais tu me fais pas confiance, pourquoi tu me fais ça, tu me vexes, j'aime pas ça. Et au lieu de penser à, je dis, peut-être qu'il cache une autre chose, j'ai dit, ah, oui, c'est vrai, je me sens mal parce que je voulais me protéger. Ça, c'est par exemple au niveau santé sexuelle. Par rapport, par exemple, au niveau finance, et donc s'il venait, il y avait des gens qui venaient, ils disaient « Daniel, est-ce que tu pourras m'avancer 500 euros ?» Je dis « Non, je ne peux pas te avancer 500 euros. Si j'étais dans ce montant-là, je vais avoir des soucis pour finir la fin du mois. » Donc là, pour moi, c'était clair parce que c'est explicite. Mais après, c'est la même personne venait et il me disait « Daniel, tu sais, en fait, je n'ai pas mangé, ça fait 12 jours, j'ai des problèmes. » Il m'a raconté une histoire. Et pour moi, c'était vrai. Est-ce que tu pourras me dépanner des 50 euros ? Moi, j'ai donné 50 euros. Après, il revenait la même personne. Ah, j'ai des problèmes, mais dans cette santé, j'ai pas d'argent pour la médecine, pour le médicament. Tu as encore 50 euros. Et à la fin de l'histoire, la même personne qui m'avait demandé 500 euros, il est venu 12 fois avec des petites histoires et avec des problèmes énormes. Et il n'a pas tiré les 500 euros, il a tiré 600 à la fin. Mmh. Donc, moi, je n'ai pas de problème. Quelqu'un de très généreux, très naïf. Et le problème, c'est que des fois, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est facile de tirer les choses de cette personne-là. » Et le problème, ce n'est pas qu'on donne. Le problème, c'est que des fois, on tombe sur des profils qui ne vont pas arrêter de prendre. Ils ne vont pas arrêter de prendre et ça, on ne le voit pas. Et, par exemple, quand j'essaie de confronter ces genres de personnages, c'est encore une fois le même, ils jouent sur mon handicap cognitif. C'est-à-dire qu'ils vont me dire, mais tu me dis ça, après tout ce que je fais pour toi, après tout ce qu'on a vécu ensemble, avec tous les chemins qu'on a ensemble, avec tous les projets qu'on a, pourquoi tu me fais ça ? Et tout d'un coup, en fait, c'est ce sentiment de culpabilité, mais non, et tu te dis, ah oui, je me sens très mal, pourquoi j'ai osé à lui dire ça, ou le réclamer, ou le confronter ? Et ça, en fait, ça fait qu'on perd les références, les horizons, on sait plus. Et si on doit se défendre ou quoi, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Ça signifie qu'au fil du temps, la naïveté sociale, les difficultés de communication, on finit par te mettre en grande difficulté sur le plan social, hein, si je comprends bien, sur le plan de la santé. Et c'est ça qui t'a amené vers un diagnostic d'autisme ?
Tout à fait. Quand je suis arrivé, que j'ai demandé un diagnostic, je ne savais pas que c'était forcément un diagnostic TSA. Je savais qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une autre chose que le TDA. Ça, je savais. Parce que même si je n'avais pas de suivi, après toutes ces années-là, nous, autant qu'est concerné, on fait nos recherches de notre côté. Et à nos jours, il y a un accès d'informations. Heureusement, il y a des endroits où on peut y aller chercher des informations. Donc j'avais beaucoup d'informations sur le TDAH, mais quand même, il y avait quelque chose qui disait, je disais, il y a une autre chose. La première chose que je fais, c'est que je parlais à mon médecin traitant. Mon médecin traitant m'a dirigé vers ma CMP, mon centre médico-psychomédical. Et là, on a commencé justement à chercher un diagnostic. D'abord, on a commencé, on a regardé la possibilité que ce soit les troubles de l'humeur. Après, on a regardé si c'était pas un peu la schizophrénie. On voyait, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Et puis, finalement, quand je suis arrivé dans la partie TSA, même j'avais du mal à croire. Parce que je me suis dit, comment est-ce que c'est possible que je passais presque 40 ans à être autiste sans les avoir? Mais après, quand j'ai commencé justement petit à petit à m'éduquer et à comprendre mieux le TSA, c'était justement les pièces qui me manquaient. Et pour comprendre mon parcours, ce qui m'a mis à qui m'a amené à demander un diagnostic plus approfondi, plus précis, c'était que dans cette grosse crise que je vous avais dit, il y a un moment, je me suis rendu compte que je comprenais rien, j'avais rien compris d'avant, je comprenais rien au présent, mais j'avais plus envie de rien comprendre, donc j'avais laissé tomber. J'avais laissé tomber et puis juste une autre chose qui maintenant je suis conscient que ça va très ça arrive très souvent dans le TSA, c'est avoir les pensées noires. Donc à chaque fois et cette pensée noire de ne pas vouloir exister était très présente. Et bah justement en fait maintenant que mes pensées sont un peu plus claires et que je vois encore une fois, tout mon parcours, parce qu'à un moment donné, c'était très insupportable de ne pas comprendre ce qui se passe. Je me dis, mais pourquoi moi? Et pourquoi ça m'arrive? Pourquoi j'arrive pas à comprendre? Pourquoi on continue? Pourquoi c'est moi qui dois finir? Parce que, par exemple, dans les problèmes sociaux que j'ai eus, bah, j'ai perdu deux logements. J'ai perdu deux logements, donc je me retrouvais pratiquement dans la rue. Donc j'ai demandé à des amis de m'aider dépanner je me trouvais à chaque fois dans des colocations ou sur location très avantageuses.
Désavantageux,
Désavantageuses, avantageuses pour eux, désavantageuses pour moi.
c'est ça.
Ça, par exemple, donc j'ai perdu mon logement. Donc j'ai passé justement, j'étais en interdiction bancaire. Donc j'ai fait vraiment les 5 années d'interdiction bancaire parce que on m'a volé, on a vidé mon compte. Une personne que je considérais partie de ma famille, mais c'était pas la famille, c'était un ami. Elle a joué sur l'handicap cognitif en me disant, ouais, je vais t'aider, donc je vais t'aider à gérer tes finances. On va ouvrir un compte commun. Et tu vas nourrir ce compte commun et moi je vais m'occuper de tout. Toi, tu fais ton travail, tu fais ce que tu veux. Bah, fin de compte, en fait, tout ce que je versais dans le compte commun, elle a tout volé. Après, elle demandait d'argent aux gens. Et elle payait avec mes chèques à tout le monde. Après, elle a demandé un microcrédit sur ces comptes-là. Et puis finalement, bah, ces comptes-là, il a fait. Bien sûr, une fois que tout a explosé, bah, le compte commun a tout pris de mon compte. Elle a fait assaisir mon compte courant. Et finalement, tout était clôturé. Donc j'étais sans économie, sans argent, sans compte bancaire, sans logement. Et je ne comprenais pas. D'un côté les côtés de santé, pareil, toutes les relations interpersonnelles que j'essayais d'avoir, ça n'a jamais marché. Je suis sorti avec des garçons, ça n'a pas marché. Je suis sorti avec des filles, ça n'a pas marché. J'ai sorti avec des personnes plus âgées que moi, ça n'a pas marché. J'ai sorti avec des personnes un peu plus jeunes que moi, ça n'a pas marché. Et donc c'est très frustrant parce que moi je ne me rendais pas compte de ce qui s'est passé dans la relation. Et moi je croyais que tout allait bien. Et à la fin, il me disait, mais ça va pas. Et pour moi, c'était une nouvelle. Et je lui disais, mais comment ça? Mais selon moi, tout allait bien. Et justement, une de ces relations, à bout d'un moment, m'a donné beaucoup de problèmes de santé. J'essayais de croire dans cette histoire romantique, l'amour, les couples, tout ça. Et moi, je finis avec plein de maladies, avec plein d'infections. Je comprends rien. Au niveau social, les relations intersociales, ça ne fonctionne pas. L'amour, ça ne fonctionne pas. Les finances, ça ne fonctionne pas. Je me fais voler tout le temps. Une fois que j'ai pris conscience que je ne me rends pas compte sur ces faits-là, donc je ne me rends pas compte si on me ment, s'il se moque, s'il me drague, je rien. Quand je prends conscience, je passe d'un côté très parano. C'est-à-dire que maintenant, toute la personne qui est devant moi, j'ai l'impression qu'il va me mentir, qu'il va me voler. Donc, qu'il est en train de se moquer de moi. Et donc, ça aide à avoir un isolement, mais pas l'isolement. Il y a un isolement qui peut être constructif, mais là, c'était destructif.
Au niveau de l'emploi, est-ce que ça a eu un impact aussi?
Oui, donc de la même façon que la vie scolaire, c'était un peu compliqué, la vie laborale, c'était très similaire. C'est-à-dire, moi, j'aime bien travailler, j'aime bien avoir une tâche et la faire. Mais surtout, ce que ça rendait compliqué le travail, c'était mes collègues. La dernière fois que j'essayais d'avoir un travail, de m'intégrer dans un travail plutôt typique, j'essayais de travailler autant que comme chargé de la partie de café et de bar d'un hôtel. C'est plus compliqué pour moi, c'est justement la convivialité avec mes collègues d'emploi, de travail. Donc des fois, par exemple, moi, je commence à faire une tâche et je m'arrête pas. Mais eux, par exemple, ils prenaient des pauses cigarettes toutes les 20 minutes. Ils sont toujours au téléphone. Et quand ils voyaient que je travaillais, ils disaient, bah, on va le laisser travailler. Sauf que ça me gênait beaucoup parce que ils me laissaient travailler, car ça leur arrangeait. Mais après, par exemple, si les superviseurs disaient, regarde comme il fait Daniel, là, j'ai commencé à me faire harceler par mes collègues parce que, problème, parce que moi, je travaillais bien. Ça, d'un côté. Mais par exemple, si j'arrivais à faire des profits, donc j'avais des bonnes ventes, je faisais des belles pourboires, là vraiment c'était leur victoire à eux. Et à chaque fois, et pareil, et s'il y avait un problème avec la caisse ou avec l'inventaire, c'était qui? C'est Daniel. Donc
D'accord.
c'était toujours offert, mais moi je travaillais, j'avais l'impression que je travaillais beaucoup. Et que de toute façon, c'était pas valoriser le travail que je faisais. Et par exemple, ils avaient des problèmes à m'intégrer avec mes collègues. Et eux, par exemple, pareil, la même chose. Ils faisaient des blagues. Donc, je me sentais très mal à l'aise parce que je ne comprenais pas ces blagues. Des fois, j'avais même l'impression qu'ils faisaient des blagues sur moi. Et même si j'essayais de rester un peu fermé, de dire non, mais je suis là pour le travail, quand même, ça. C'est un facteur d'angoisse. À chaque fois que je devais aller travailler, ça m'angoissait le fait de voir mes collègues. J'étais content d'aller vers le travail parce que j'ai rencontré des gens, des clients qui sont différents tous les jours. Donc c'est la nouveauté, TDAH. Et on aime la nouveauté. Mais ça m'angoissait le fait de voir mes collègues. Je dis, donc au niveau d'emploi, c'est un gros impact. Et une autre chose aussi, c'est que justement, dans la plupart du travail, on doit porter aussi le masque social. Donc, par exemple, quand on travaille, quand on fait un travail, un emploi, et qu'on donne un service public, il faut toujours bien. Ça va, ouais, ça va bien. Et à l'intérieur, peut-être j'étais très angoissé parce que justement, mes collègues étaient en train de me harceler derrière, dans la réserve. Et parce qu'on m'a caché mes sous-tils, parce qu'on m'a caché ma chemise, ou ils me font des blagues assez lourdes, mais moi je devais rester toujours bien pour faire mon travail. Et forcément, à bout d'un moment, je faisais des travaux, quand je travaillais, je faisais des horaires, par exemple, de 19h jusqu'à 3h du matin. Et ça m'est arrivé que des fois je rentrais chez moi, c'était 4h du matin, et après je ne voulais pas sortir du lit de 4h du matin jusqu'à 18h. Que je devais repartir encore une fois. Faire des crises d'angoisse avant de partir au travail, c'est très fatigant. De faire tous les chemins, avoir cette gêne de ne pas vouloir y aller, de pleurer parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Mais après, une fois qu'on est sur place et mettre le masque, et tu vois bien, quand on sort fatigué, qu'après on n'a plus envie de rien faire.
Alors, tu nous as parlé de certains symptômes du TDAH qui te donnent envie d'aller travailler parce que ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Donc, il y a des points positifs au TDAH. Est-ce qu'il y a d'autres points positifs et est-ce qu'il y a des points négatifs?
Et dans les TDAH, avec les H, l'hyperactivité, moi j'ai appris, parce que les gens qu'on entend hyperactivité, ils pensent quelqu'un qui saute tout le temps, qui n'arrête pas de bouger. Oui, ça arrive des fois, mais la hyperactivité, la hyperactivité émotionnelle et aussi cérébrale, au niveau de pensée.
Et pour toi, c'est
Et
quoi du coup le H?
ça change. Il y a des fois que je suis très physique. Il y a des fois que je suis très émotionnel, il y a des fois que je suis en train de penser. Mon cerveau, c'était comme un Ferrari. Et avant le diagnostic, c'était un Ferrari avec des freins de vélo. Donc ça allait super vite, mais comme j'arrivais pas à m'y arrêter, donc j'avais des accidents très, très fréquents. Donc la bonne partie justement de l'hyperactivité au niveau de pensée, qu'on sait bien, qu'on n'y a pas des, qu'on a, si on réduit les facteurs de stress. Donc on ne produit pas trop de cortisol, donc on n'est pas en garde, et qu'on a des petites roches d'hyperactivité cérébrale. Ça peut faire des belles choses, c'est des créativités. Des fois, je fais des choses, des petites vidéos. J'aime beaucoup faire des petites vidéos, je suis très geek. Et des fois, je fais des petites vidéos en 20 minutes, ça va super vite. Et des fois, si je n'ai pas cette période d'hyperactivité cérébrale créative, je vais passer des semaines à rien faire. Même pas une seule vidéo de 20 secondes. Donc, et au niveau émotionnel, c'est pour ça que des fois on confond aussi avec les troubles de l'humeur, c'est que pareil, avec les émotions, ça peut aller de très bien, être très mal à l'aise. Au niveau physique, surtout, moi je me rends compte que. Parce qu'en fait, tout est attaché, et les salles, ça va tout avec. Parce que des fois, par exemple, si je suis très angoissé et je vais à la salle de sport, après ça va mieux. C'est-à-dire que mon hyperactivité peut-être émotionnelle, ça a une petite crise, et, je ne sais pas si des rages, je ne sais pas si des angoisses, je ne sais pas, mais j'ai la santé montée. Et une fois que je suis arrivé à la salle de sport, comme l'activité physique, c'est une façon organique de produire des dopamines, sérotonines, endorphines, donc là ça aide. Une autre chose, c'est que des fois, être en mouvement, ça m'aide aussi à mieux processer mes pensées, mieux m'organiser, mes émotions pareilles. Mais ça change. Une fois, j'ai peut-être très, très hyperactif au niveau physique. Le lendemain, je ne sors pas du lit. Mais par contre, les 20 minutes que j'ai sorti du lit et que j'ai pris mon ordinateur ou mon portable, j'ai fait une pièce magnifique, par exemple.
Et le côté inattentif, ça serait quoi chez toi?
Les côtés inattentifs, je pense plutôt que c'est tellement dispersé. En fait, comme mon attention, c'est un peu partout. Donc, par exemple, là, la porte qui est claquée. C'est difficile à faire attention sur une seule chose. Sur une seule chose. Et c'est compliqué parce que justement, on saute d'une chose à une autre. L'exemple le plus simple que je dis, c'est par exemple au niveau de la lecture. J'ai du mal à lire un roman, un bouquin, un livre, une histoire, une longue histoire. J'ai du mal. Si des fois, je dois lire 5 pages et je dois revenir 10 parce que je ne me souviens pas ce qui s'est passé. Parce qu'il y a des petites informations qui déclenchent des autres pensées. Si c'est dans l'histoire, par exemple, du bouquin, il dit ils sont promenés sur les jardins. Les mots jardin, il dit ah, jardin, oui, c'est vrai. Et il fait beau, il faut faire un pique-nique, pique-nique. Ah, il faut que j'appelle à ma pote Claudia. Ah, Claudia, il faut que je cherche ces Tupperwares. Tupperwares, ah, il faut que je fasse le. Et là, c'est parti. Et tout d'un coup, en fait, je suis déjà en train de penser si Pluton, c'est une planète ou un astéroïde. Et je sais pas comment ça passait du jardin à l'espace. Donc ça, c'est le côté inattentif que je pense plutôt c'est dispersé. Mais d'un autre côté, par exemple, parce qu'on confond très souvent concentration ou attention avec mémoire. Et par exemple, attention, si j'ai lu un journal ou un magazine, là, ça, j'ai pour le lire sans problème. Parce qu'on change de page. Et c'est de la nouvelle information. Donc, TDAH, c'est la nouveauté. Donc, on tourne la page, donc c'est nouveauté, c'est très intéressant. Il y a des nouvelles informations, des nouveaux sujets. Et une fois que j'ai fini les journaux ou les magazines, je m'en souviens des dates très précises. Je me souviens des numéros, je me souviens des endroits. Ça, c'est parfait.
C'est super intéressant parce que peut-être expliquer un petit peu comment fonctionne le TDAH. C'est une neuroatypie hein, comme l'autisme qui sont très souvent associées. D'ailleurs, hein, dans certaines publications, on dit qu'il y a plus de 80% de personnes autistes qui ont également un TDAH associé. Et en fait, comment ça fonctionne, c'est que c'est une sorte de maintien au repos du cerveau. Hein. Donc, dans un cerveau typique, donc là, ce qui est typique, c'est ce qui est dans la majorité de la population. Hein. Le cerveau au repos, il y a plein de petites zones du cerveau qui sont actives, mais il ne se passe pas grand-chose. Et puis, quand il y a quelque chose à réaliser, une tâche à réaliser, toutes ces zones, elles arrêtent de fonctionner au profit des zones qui sont dévolues à la tâche à accomplir. Avec, du coup, je vais pouvoir commencer ma tâche, je vais pouvoir la poursuivre, la finaliser, etc. Et ensuite, mon cerveau revient au repos. Chez la personne TDAH, c'est pareil au repos, mais le cerveau a tendance à rester au repos. C'est-à-dire que s'il y a une tâche à réaliser, en fait, ces zones-là vont continuer à être actives. Et du coup, les zones qui sont dévolues à la tâche à réaliser vont avoir du mal à avoir de l'énergie pour justement faire ce que j'ai à faire. Et du coup, je vais me déconcentrer assez facilement, soit je vais même pas pouvoir commencer la tâche, je vais faire autre chose, soit je vais commencer, mais en fait, après, je vais être perturbée par plein d'autres choses, etc. Et c'est très compliqué d'arriver à la fin. Et c'est un peu ce que tu disais aussi, tu as une certaine sensibilité à la nouveauté, et ça, c'est une autre spécificité du TDAH, c'est la sensibilité à la récompense. Chez les personnes neurotypiques, c'est plus une sensibilité aux récompenses intensives. Donc tout ce qui est, par exemple, je sais pas moi, réussir mes études, du coup je dois faire ma thèse, je dois écrire ma thèse, ça va me prendre plein de temps, mais ma récompense elle est énorme derrière, donc je vais le faire. Mais pour un TDAH, c'est pas ça, la récompense qui va me permettre de me mobiliser, de sortir de mon état de repos, c'est une récompense rapide en fait.
Tout à fait.
Et donc la nouveauté, c'est une récompense vachement rapide, c'est ce qui va me permettre de générer un petit peu de dopamine, d'avoir mon petit shoot de plaisir, et puis après ça peut retomber. Et c'est un peu ce que tu décris entre tes moments de on et des moments de off, comme ça. C'est exactement ça.
Et c'est très intéressant parce qu'en fait, justement, nous n'avons pas pour les priorités. On ne sait pas faire les priorités aussi. Donc, l'exemple, je disais, faire mes déclarations de impôts et regarder les derniers épisodes des X-Series, pour moi, il y a presque la même valeur. Sauf que les derniers épisodes, ça y a une gratification immédiate. Après... qu'on se finit. La déclaration de impôts, il n'y a aucun gratification immédiate.
Ce qui peut te mettre dans des situations financières quand même compliquées. Ouais.
Après, j'ai compris en fait que qu'avec les TDAH, il faut qu'on avance, on apprend, on travaille. Il faut que tout soit... je parle pour moi. Il faut que tout soit très, très amusant ou très urgent.
Ouais,
c'est, okay. C'est la douche.
Ah ouais.
C'est avec les deadlines, parce que quand on est sous pression, en fait, c'est comme si on activait justement la hyper-concentration. Ouais. Et là, on fait en 15 minutes ce qu'on n'a pas réussi à faire en 4-5 heures.
T'es en mode tornade.
Oui, oui, oui.
Donc procrastination tout au bout.
Donc oui, donc c'est très embêtant, parce que des fois, tu dis, mais pourquoi il faut que je sois sous pression pour que je fonctionne? Comme je disais, la façon de le faire tout en façon d'un jeu... Mm-hmm. Mais non, c'est des stratégies que je fais. Si je dois faire par exemple ma déclaration de impôts, ça c'est la tâche, ça c'est l'objectif final. Mais je coupe cette tâche-là en plein petites tâches.
Ok.
Disons comme c'était un jeu de vidéo, donc ça c'est la fin. Et le niveau 1, donc je dis niveau 1, c'est trouver toutes les fiches de paie. Donc une fois que j'ai fini le niveau 1, la fiche de paie, donc je vais faire une petite gratification immédiate. C'est-à-dire, je me permets de voir par exemple une vidéo sur Internet, soit je mange une glace, soit je mets un peu de musique, et après je dis, ok, c'est bon, t'as fini les niveaux 1. Les niveaux 2, c'est quoi?
Mais c'est le découpage des tâches. Et t'as beaucoup du coup comme ça?
Oui, la plupart des temps, pas tout le temps, parce que c'est ça une autre chose de le te dire. Des fois, on met en place des stratégies qui fonctionnent très bien, mais après, ils ne fonctionnent plus. Donc ça devient frustrant parce que je dis, mais ça marchait la dernière fois, donc on doit essayer une nouvelle chose. Et on arrête les stratégies 1 pour développer les stratégies 2. Mais des fois qu'on est dans la stratégie numéro 7, et si on revient sur la stratégie numéro 1, ça fonctionne encore une fois. Mm-hmm. Donc c'est toujours, il faut toujours essayer de ne pas avoir peur de changer.
Ça, c'est toutes les stratégies comportementales, ce qui est fait en thérapie comportementale et cognitive, par exemple, encadrée par un thérapeute. Tu avais d'autres stratégies éventuellement, notamment des médicaments, des choses comme ça?
Oui, donc c'est le sport, comme j'ai dit, et la méditation. Et maintenant, j'ai fait la toute nouvelle. Là, vous allez avoir une première. En fait, maintenant, je fais des cocktails sensoriels. C'est-à-dire, parce que Assez comme avant, on disait, ouais, il faut prendre telle pilule pour les angoisses, telle pilule pour dormir, telle pilule. Et maintenant, j'essaie de limiter le médicament. Mais maintenant, j'ai fait des cocktails sensoriels, c'est-à-dire, je mets une méditation, et des fois, cette méditation, ça fonctionne très bien. Mais des fois, c'est pas assez. Donc, j'ai réduit, je dis, ah, quand je sais qu'au niveau visuel, tout ce que c'est la lumière blanche, par exemple, elle me fait mal. La lumière du jour, ça me pique les yeux. Mais ça me stimule tout ce que c'est les néons, les kaléidoscopes, les figures kaléidoscopiques avec des couleurs vives et tout ça. Donc des fois, je mets sur mon écran de la télé, je mets des images des lumières, des kaléidoscopes qui passent. Je coupe les sons, je mets les sons de la méditation. Et donc là, j'ai fait un cocktail. Donc j'ai mélangé une information visuelle qui n'est pas liée à la méditation que je suis en train d'écouter. Mais ça marche. Et le lendemain, je dis, ah, ça n'a pas marché. Et des fois, donc je rajoute un autre élément dans mon cocktail. Donc maintenant, je vais enlever complètement la lumière. Donc je ferme les rideaux et ça fonctionne. Et après, par exemple, des fois, il me faut un peu de lumière, donc il faut essayer. Des fois, il faut que je rajoute un ventilateur pour que j'aie une petite sensation de vent. Donc, c'est ça. Donc, je mélange la méditation. Comme je suis conscient que l'expérience sensorielle est différente aussi, donc j'essaie de chercher des choses qui me calment. Et les sports, et c'est basique parce qu'en fait, pas seulement ça m'aide à organiser le train de mes pensées. Mais aussi au niveau émotionnel, je me sens beaucoup mieux. Et une autre chose, c'est que à la fin de la journée, ça me permet de mieux dormir. Parce que le sommeil, c'est un facteur très important quand on est TDAH et TSA. C'est un problème très très commun.
C'est amusant du coup que tu utilises finalement tes particularités sensorielles autistiques pour soulager tes symptômes du TDAH.
Tout à fait.
C'est super intéressant
Tout à fait.
ça.
C'est diagnostic TSA, TDAH, c'est le diagnostic de la contradiction. Je dis des fois, parce que par exemple avec TSA, j'adore les routines. Il faut que les choses soient. Il faut que par exemple, si je vais au supermarché, je vais toujours au même supermarché parce que je connais où sont les choses, où sont. Dans quel couloir il y a quel produit. Les diagnostics TSA et TDAH, moi je dis c'est le diagnostic de la contradiction permanente. Parce que par exemple, d'un côté, moi j'aime bien mes routines, j'aime bien avoir mes petits rituels. Ça je comprends, ça fait partie de mon TSA. Mais de l'autre côté, mon TDAH, il cherche la nouveauté. Mais en même temps, une fois que je vais chercher les TDAH, mon TSA me déclenche des angoisses. Parce que c'est de l'inconnu. Et donc c'est toujours c'est la contradiction totale. Et donc avant c'était très frustrant, désolé. Et ça arrivait jusqu'au point que je faisais plus rien. Donc c'était lit et sans bouger, sans rien faire.
Et ces stratégies, tu les as trouvées seules ou accompagnées?
Les cocktails,
C'est ça.
c'est moi qui l'a trouvé tout seul.
Ouais.
Mais les stratégies de méditation et les kaléidoscopes, tout ça, et justement, ça faisait une fois que j'ai pris conscience parce que j'ai fait une éducation thérapeutique, et une fois que j'ai compris que justement mon expérience sensorielle, émotionnelle et d'information, ça se passe différemment, je me suis permis d'explorer des petites choses. Après, par exemple, justement, avec les partages avec des autres TSA que j'ai su sur les réseaux, parce que c'est ça que c'est bien aussi, c'est que si les réseaux, on sait bien les utiliser, on peut trouver des bijoux. Donc, des fois, j'écoutais, je disais, ah, il y a une méditation qui est très bonne pour les angoisses, il y a une très bonne. Ah, c'est autre chose, de cette stratégie. Parce que maintenant, j'ai des playlists, donc j'ai des méditations. Pour le réveil, de méditation pour l'angoisse, de méditation des régulations sensorielles et de méditation pour dormir.
C'est génial,
Et
c'est
c'est
super.
des playlists,
Ouais.
ce sont des playlists différentes que j'ai. Et donc, par exemple, les méditations du matin, donc il y a plus la musique, mais c'est aussi guidé, c'est plutôt de. On fait un. C'est comme l'inventaire des gratifications. on dit ouais, merci parce que je suis content que je remercie parce que hier j'ai réussi à faire du sport. Je remercie parce qu'aujourd'hui je suis avec Mona et Alain. Et aujourd'hui je remercie parce que il fait beau. Et après on se met dans un état qui dit et je dis et je remercie en avance toutes les belles choses qui vont m'arriver cette journée. Donc c'est comme ça que je démarre mes journées. Et j'ai trouvé une autre chose aussi. Tu sais, tous ces cocktails, les méditations, les sports et tout ça, ben c'est aussi comme le médicament. C'est quand on est malade, qu'on dit, il faut prendre cette pilule une fois tous les 6 heures, tous les 8 heures, tous les 4 heures. Ça dépend de l'état de la maladie. Mais par rapport au niveau émotionnel et sensoriel, c'est pas la même chose. Parce que des fois, il y a une méditation où j'ai fait une méditation où je m'élève très énervé, très content, très optimiste. Je dis, ouais, ces journées, c'est bien. Et après, 12 heures après, c'est bon, c'est fini. Donc, c'est comme le médicament. Maintenant, je suis conscient que si 12 heures après, il me faut une deuxième méditation, ben, je ferai une deuxième. Ouais. Des fois, une seule méditation pendant la journée, ça m'a suffi. Des fois, je dois faire pendant la matinée, je dois faire 2, 3, 4. Et donc, c'est pareil, en fait, c'est comme le médicament. Une fois que j'attends pas à que ça à avoir les crashs, à me sentir mal complètement. Dès que je sens qu'il y a un petit malaise, je dis, attends, je vais essayer, je m'arrête, je vais faire une petite méditation.
Ouais, t'as systématisé la méditation finalement dans ton quotidien.
Et je dis, c'est par l'emploi, pardon.
Peut-être deux mots sur les consommations toxiques, parce qu'on parle de TDAH, je pense que c'est important. Tu parlais de contradictions aussi entre TDAH et TSA. Une des contradictions les plus fréquentes, c'est les consommations toxiques. Dans le TSA, on sait que la population autiste consomme moins que la population générale de toxiques, mais la frange de population autiste qui consomme plus, c'est ceux qui ont un TDAH associé. Est-ce que toi, tu as été confronté à cette question-là?
Oui, tout à fait. Et avant, sans le savoir, en fait, c'était une façon de s'automédiquer. Donc, c'est une façon qui... C'est un des inhibiteurs qui me permettait d'avoir beaucoup moins des angoisses et qui me permettait de m'approcher à un groupe social ou à des personnes. Sauf que, je ne sais pas si on devient attaché ou addict à la substance ou à l'effet d'être accepté, de mieux passer. Donc, on cherche à enlever ces angoisses pour qu'on puisse faire ce qu'il faut faire pour être accepté. On cherche cette gratification immédiate. Donc, c'était une façon d'automédication. Maintenant, je le comprends. Oui, j'ai eu beaucoup de problèmes d'abord avec l'alcool. J'ai pas eu de problème d'addiction, c'est-à-dire que je savais m'y arrêter. Je disais, je travaille, dans le travail, il faut travailler. Mais ça allait dans une consommation assez forte. Ça, c'était l'alcool. Après, pour les substances, les substances sont venues après. Ça touche aussi la partie de naïveté. Donc, des fois, on rencontre des gens qui, justement, ils ont envie d'aller plus loin. Mais ils voient qu'ils nous sont tendus. Mais qu'on est prêt, à continuer avec l'alcool et on est prêt à faire des substances. Donc, ça vient aussi des substances. C'est bien parce qu'on n'a pas l'angoisse, on fait d'autres choses, mais justement, comme on n'a pas cette notion de ce qu'est cette naïveté, moi de mon côté, ça m'est arrivé que justement, je suis allé dans une consommation, je ne la cherchais pas. Et oui, c'est faux, je la cherchais parce que je me mettais dans la place où il allait être offerte. Mais ce n'est pas moi qui allais l'acheter, je savais qu'il allait me l'offrir.
C'était dans quel type de situation?
Et surtout l'alcool, c'était dans des réunions avec des collègues de travail ou des collègues de l'école. Comme je disais, en fait, une fois qu'on n'a pas d'angoisse et qu'on est prêt à tout faire pour plaire, on devient en anglais, on dit les animal party. Donc, on est très drôle pour sortir parce que on va monter danser sur les tables, parce qu'on va se déshabiller en plein piste de danse. Et on va faire tous les défis que les autres, ils n'osent pas faire. Donc ça c'est au niveau de l'alcool. Après les substances, quand j'ai commencé à avoir un peu d'intimité ou de rapports sexuels, des fois les gens voyaient que j'étais très, très angoissé, ou très, même avec l'alcool. Donc ils disaient, bah tiens, prends ça, ça va te détendre. tiens, prends ça, ça va t'aider. Sauf que, après, pareil, ça passait la même chose qu'avec avec l'alcool. C'était Disneyland. C'était Disneyland du sexe, parce que là, c'était waouh, on pouvait faire tout ce qu'on voudrait. Parce qu'il n'y avait plus d'angoisse, en plus, on ne voit pas les dangers, et on a un rapport avec la douleur. Ça, c'est un autre thème. Et donc, ça invite ou ça facilite à des pratiques très fortes. Mmh. Et le problème, c'est que nous, on ne sait pas dire non. On nous approche la substance et on fait des défis pour justement plaire à quelqu'un d'autre.
Ok, donc en fait, ça induisait aussi des comportements à risque dans les relations sexuelles et dans les relations avec les autres.
Ouais, ouais. Okay. Et après, bah, justement. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vis une vie plutôt presque célibat, parce que j'ai pris tout ce que c'est par rapport au sexe, et j'ai travaillé dans le milieu. Donc j'essaie de vendre la fantaisie, l'idée, tout ça, j'essaie de la vendre très bien. Mais pour aller vraiment à l'acte, moi, ça me donne de panique. Je panique énormément. Donc, par exemple, mes rapports sexuels sont très limités, parce que moi, je dis, s'il me faut être alcoolisé ou drogué pour y arriver, alors je ne veux plus faire. Okay. Je veux plus avoir des rapports.
Ça signifie que maintenant, tu es passé un peu au-delà de tout ça, ouais, sur la question des toxiques en tout cas.
Ouais, 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 ouais.
Comment tu vas aujourd'hui?
Eh oui, très bien.
Il est content de l'entendre.
Qu'est-ce que tu gardes encore un peu comme challenge, comme objectif?
Écoute, pour moi, faire tous ces projets au niveau d'information, des consciences, au niveau de toute la neurodiversité et de la santé mentale, ça me motive énormément. Parce que, tu sais, je fais des projets, je suis comédien aussi. Donc, je suis comédien. Et pendant 20 ans, j'essayais de rentrer dans les milieux et je faisais des in and out sans trop de succès. Donc, pendant 20 ans, à chaque fois que je m'approchais à faire des projets, en fait, je me présentais avec un masque de Daniel pour justement plaire ou réussir à faire ça. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus utiliser les masques. Et donc, je me suis présenté dans des projets. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait rien faire. Il fallait être juste moi, avoir confiance en moi.
Qu'est-ce qui t'a permis de...
L'éducation. L'éducation. L'éducation sur ma condition.
Des autres ou de toi-même?
Sur ma condition, sur le TSA, sur le TDAH. Et après, justement, une fois que j'ai pris conscience de toute cette information, de comment ça fonctionne, et je continue à apprendre, hein. J'ai pas dit que... parce que ça continue. Mais une fois que j'ai eu toutes ces informations, j'ai pu les traduire en moi. Je dis, parce que, tu sais, des fois on dit... Je l'ai traduit en moi, et une fois que j'ai traduit, je dis, comme par exemple, je dis, maintenant je sais que mon expérience sociale c'est différente, j'ai commencé à appliquer ça dans le travail. L'exemple que je disais, pour aller plus clair, j'étais dans un tournage, et j'étais pris pour faire un film, un très bon film, on parlait à ça une autre fois. Mais par exemple, je suis arrivé, me présenter à cette casting. J'ai fait un casting, donc la première chose que je me suis dit, quand on a commencé à faire des preuves, je voyais que tout le monde était un peu stressé, et là je me suis dit, ah, la théorie de l'esprit. Il ne faut pas que c'était face à un mauvais coup. Donc, s'ils sont stressés, ce n'est pas forcément lié à toi, laisse-le faire son travail, et toi tu fais ce qu'on te demande à faire. Non, ne prends pas, s'ils sont stressés, s'ils font des têtes, des grimaces, ils ne sont pas forcément liés à toi. Donc, le seul fait d'être conscient, ça m'a permis de rester dans mon rôle et de faire mon travail. Donc, je ne me suis pas auto-saboté. Une fois sur le plateau, à chaque fois que j'arrivais dans ce plateau, je disais, comme je sais que au niveau sensoriel, il faut me réguler aussi, j'ai cherché dans les plateaux toujours un petit coin qui soit le plus sombré, avec pas beaucoup de lumière, sans personne, et frais. Et entre les pauses, si j'étais un peu surchargé, c'est au niveau sensoriel, émotionnel, j'allais dans mon coin, je prévenais tout le monde, et puis ça marchait. ça se passe très bien au niveau de la comédie. Ça se passe très bien au niveau de la connaissance, de comment est-ce que je fonctionne, comment est-ce que mon cerveau fonctionne. Et dans le projet, ben c'est ça, c'est continuer à apprendre et à apporter quelque chose. Parce que les chances, ça me permet, personne, là je vous ai parlé sur mes cocktails sensoriels, de régulation sensorielle. Mais je sais que quelqu'un peut, si ça peut aider à quelqu'un, je serais très content. Et quelqu'un d'autre pourra m'apporter peut-être des informations supplémentaires. Donc, dans mes projets, c'est ça, c'est continuer, un, à travailler sur l'éducation et sur tout ce que c'est le TSA, le TDAH, la neurodiversité, et casser les préjugés. Surtout casser les préjugés.
Tu vas faire ça comment?
Et justement, je vais utiliser mes atypies comme un atout pour faire un travail efficace. Donc à chaque fois je dis, quand je disais il faut arrêter de dire de parler de déficit, de parler des atypies, je le dis, mais maintenant je le fais. Et je suis en train de faire ça et j'espère que je vais continuer, que ça va améliorer. Donc maintenant mes atypies, en fait, est-ce que je croyais que c'était mes faiblesses? En fait, c'est ma
Oui.
force.
Après les avoir bien connus, le fait de
Exactement.
mieux te connaître, de mieux te comprendre, ça te
Ouais.
permet de mieux les expliquer aussi à ton entourage, si je comprends bien, c'est ça?
Exactement.
Ouais.
Et je continue à apprendre. Et de ne pas laisser, si un jour ça ne marche pas, j'essaie différemment, mais ne
Ok.
pas laisser tomber.
Ok.
Je mets dans deux pauses, si.
Ça serait ça les conseils que tu donnerais un petit
Ouais,
peu aux personnes qui vivent la même chose que toi, qui ont un
ouais.
TSA et un TDAH, ça serait quoi tes conseils?
Bah, il faut pas laisser tomber, il faut continuer, même il faut continuer différemment. On a les droits, oui, on peut faire une petite pause pour justement réguler ses émotions, réguler sa sensorialité, ses émotions, ses pensées. Ça, c'est complètement valide. Mais toujours essayer. Essayer différemment. Et si la stratégie 1 ne marche plus, on fait jusqu'à 15 ou 20 ce qu'il faut. Et après, on réessaye les nouvelles. Donc, c'est toujours se réinventer.
Réinventer. Eh ben, on va
Super.
s'arrêter sur cette thématique.
Merci beaucoup, Daniel, pour d'être venu, d'avoir partagé ton histoire avec nous.
Merci.
C'était passionnant. Un petit épisode un petit peu plus long que la moyenne, et j'ai envie de dire que c'est un petit peu inhérent au diagnostic de TDAH. Mais dans le TDAH, on a tendance à avoir un petit peu des particularités dans le timing, c'est-à-dire dans
Ouais,
la façon de
on
gérer
est,
son temps.
oui, ça, on est time blind,
Ouais, c'est
on ne
vrai.
revoit pas les temps.
On avait dit
Ouais, la gestion du temps, c'est ça.
45 minutes d'épisode et en fait,
Ça
bon,
nous
ben,
permet
c'est un
d'avoir.
petit peu plus. Merci énormément, Daniel.
Avec plaisir, merci à vous.
C'était Lumière sur le spectre, l'autisme révélé, et on se revoit bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
À bientôt, gracias, bye.